Yvette Monta, bonjour.
Bonjour madame.
Il y a une petite guéguerre, si je peux le dire, entre les organisations des jeunes qui sont actifs dans le secteur minier et le gouvernement congolais. Ces jeunes-là pensent justement que ce fonds a été institué pour garantir l'après-mine et que, par exemple, l'argent versé dans ce fonds devrait financer des bourses d'études, de projets de jeunes entrepreneurs. Comment trancher?
Bon, je ne voudrais pas vraiment trancher, mais je pense qu'on doit se référer à ceux qui ont fait des preuves dans ce domaine et surtout au FMI, qui a édicté ce qu'on appelle les principes de Santiago. C'est vraiment un ensemble de bonnes pratiques qui aident les pays qui ont institué les fonds souverains à les gérer de manière durable. Et selon aussi les critères du FMI, le fonds souverain doit être destiné aux investissements à long terme. Il faut maintenant voir comment concilier les préoccupations des uns et des autres sans pour autant aller à l'encontre des critères du FMI. Maintenant, il y a plusieurs sortes de fonds. C'est à l'air d'essayer de se fixer quels sont les objectifs. Quand vous lisez dans les missions qui sont assignées à ces fonds, il y a le financement de la recherche géologique, il y a la prise de participation, il y a la diversification. Maintenant, si on reste dans cette logique-là, je pense que les jeunes ne vont pas se retrouver. Mais on ne demande pas aussi au gouvernement de faire la sourde oreille. Il faut qu'il voit dans quelle mesure il peut trouver une partie d'une quantité peut-être destinée aux bourses d'études, peut-être dans le domaine de mine, dans les domaines de renforcement des capacités, parce que nous sommes un pays minier, mais nous sommes aussi un pays pétrolier. On a besoin des ressources humaines qualifiées dans le domaine des géosciences pour que nous soyons à même de bien gérer ces ressources-là.
Vous dites que la RDC n'a pas inventé la roue, donc il faut prendre exemple des pays qui ont des fonds miniers. Vous citez ici le Qatar, le Koweït ou Dubaï,
la Norvège.
Concrètement, ces pays ont fait quoi?
Bon, par exemple, pour le fonds norvégien aujourd'hui, il a pris des participations dans l'indice boursier CAC 40 et chaque fois que cet indice-là génère du bénéfice, ce sont ces dividendes-là qui aident ces pays-là. Aujourd'hui, le fonds norvégien, il est autour de 8 000 milliards de dollars. Vous voyez que c'est un exemple. S'il est bien géré, si les prises de participation, que ce soit en interne ou au niveau international, sont bien gérées, les pays génèrent suffisamment de revenus pour les réinvestir encore dans l'économie et même dans les infrastructures.
Et pour le Qatar?
Le Qatar, aujourd'hui, ils ont pris le PSG, c'est la propriété du fonds qatari. Il y a aussi la chaîne hôtelière Accor, c'est une chaîne française, ils ont 10% de revenus. La Chine a pris des participations dans les banques européennes et même américaines au plus fort de la crise économique mondiale de 2008. Ça, c'est ce qu'on appelle la China Investment Corporation, c'est un fonds souverain de la Chine. Alors maintenant, si on s'inspire des pays, surtout du Golfe, qui, eux, ont institué des fonds sur base des excédents de liquidité du secteur du pétrole, ils ont réussi à diversifier l'économie et cela les a aidés à se positionner de manière utile au niveau du commerce mondial et les retombées se ressentent aujourd'hui. Tout le monde envie Dubaï, tout le monde veut aller au Qatar.
Alors madame Monza, vous ne pensez pas que chaque milieu a ses propres réalités et qu'il faudrait peut-être trouver une solution adaptée au contexte congolo-congolais? Est-ce que si on transpose les réalités par exemple du Qatar, est-ce que ça marchera forcément ici chez nous?
On ne peut pas prétendre avoir le monopole de connaissances. Ceux qui sont plus expérimentés dans ces domaines peuvent nous aider. Mais nous, en interne aussi, on doit adapter la gestion de ce fonds à nos propres réalités. Mais on doit s'inspirer des success stories. Sinon, on risque de ne pas atteindre l'objectif pour lesquels elle a été instituée. Et je pense aussi qu'au-delà du fonds minier, il fallait trouver d'autres sources pour alimenter ces fonds-là. Par exemple, la redevance pétrolière, il fallait trouver aussi une quotité. Il faut aussi penser aux actifs fonciers, aux actifs miniers, diversifier un peu les sources de financement de ce fonds pour qu'il soit vraiment à même de répondre aux besoins de la RDC.
Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter au nouveau DG qui vient de commencer fraîchement la gestion de ce fonds?
Bon, on lui souhaite toutes les bonnes chances. Nous espérons qu'il va gérer de manière responsable quelqu'un qui est déjà secteur minier, donc il s'y connaît. Nous, le secteur privé, ce que nous devons faire, c'est de nous acquitter de notre obligation fiscale. Donc chaque fois qu'il y a exportation, la quotité des 10% doit être versée. Mais cela n'empêche pas les Congolais de tous bords de contribuer en termes de réflexion pour donner des propositions au gouvernement de manière à ce que ce fonds puisse vraiment servir et aux générations présentes et aux générations futures.
Et je vous remercie.
Merci madame.